RMC Intégral Sport.
François Pinet.
h 57, bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RMC à l'écoute de l'Intégral Sport, on est ensemble jusqu'à 15h avec Manu Amoros. Salut Manu.
Salut François, bonjour à tous.
Ravi de te retrouver puisque dans un instant il y aura le coup d'envoi de Strasbourg-Reims. Troisième journée de Ligue 1, dans un instant on va aller prendre des nouvelles des compositions d'équipe avec Sébastien Ruffet. On suivra également en direct la troisième étape de la Vuelta, le Tour d'Espagne à suivre sur RMC, vous le savez. Et puis à 14h, le Grand Prix Moto, ça se passe en Autriche avec deux Français en embuscade. Fabio Quartararo et Johan Zarco qui partiront en deuxième ligne. On fait le point dans un instant dans cet Intégral Sport avant de suivre en direct cet événement. Et puis il y aura également bien sûr les championnats d'Europe à Munich avec la course en ligne féminine, c'est du vélo, et puis le canoë kayak pour les dernières épreuves de cette dernière journée de Munich pour les championnats d'Europe. Allez, direction tout de suite la méno dans deux minutes maintenant, le coup d'envoi du match avec Sébastien Ruffet au commentaire. Salut Sébastien.
Salut François, salut Manu.
Salut Sébastien.
Un petit coup de composition d'équipe, donne-nous les compos de ce Strasbourg-Reims.
Ouais, c'est parti dans cette ambiance que vous entendez sans doute derrière moi, qui est déjà très chaude pour ce dimanche 13h. La compo strasbourgeoise, elle est classique avec Matzel dans le but. Le Marchand, Djikou, Perrin composeront la défense à 3 en l'absence de Jairzinho Niamsi qui est blessé à la hanche. Dimitri Yenard prendra le poste de piston gauche. Celui à droite, ce sera pour Thomas Delaine. Persic, Bellegarde, Thomasson au milieu. Et en attaque, ce sera Abid Diallo associé à Kevin Gamero. Ludovic Ajor qui est sur le banc, de même que un revenant, Lebo Motiba, sur le banc. D'ailleurs, il a eu une belle petite ovation. Côté Rémois, Benz dans le but évidemment. Alors je regarde un petit peu comment ça s'organise parce qu'il y a pas mal d'a priori défenseurs centraux. Et donc on va avoir un 3-5-2 également avec Gravillon, Woodface qui est bien là, Younes Belhamid. Il y a également Loco, Maxime Buzy, le milieu de terrain Doumbia, Mounetsi, Lopi, et une attaque emmenée par Balogun et le japonais Junya Ito. Première titularisation, on attend de le voir à l'œuvre hein, parce qu'il a des statistiques, on en reparlera, qui étaient assez éloquentes en Belgique. Et il est bien titulaire sur la pelouse de la Méno cet après-midi.
Donne-nous aussi l'enjeu, bien sûr, enjeu important pour les deux équipes puisqu'elles font partie de ces deux équipes qui n'ont toujours pas remporté de match.
Oui, effectivement, avec des résultats, alors bien sûr un peu contrastés. Un seul point marqué par les Strasbourgeois, mais avec une défaite ici contre Monaco 2-1 qui avait rien d'infamante, loin de là, puisque les Strasbourgeois avaient même pensé égaliser à un moment donné, alors que le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. Un match nul récupéré à Nice, un petit peu dans la douleur, mais malgré tout un bon point pris. Donc il y a une dynamique quand même qui commence à s'installer tout doucement. Ils prennent leur marque, ces Strasbourgeois, et le coup d'envoi est donné à l'instant entre Strasbourgeois et Rémois. Alors que pour le stade de Reims, c'est plus compliqué. Une défaite inaugurale 4-1 à Marseille, défaite à domicile contre Clermont 4-2. Là, c'est un petit peu plus compliqué psychologiquement pour les Rémois qui ont absolument besoin de se mettre dans le droit chemin et dans le bon sens dans cette Ligue 1. Voilà, c'est parti. Depuis 15 secondes, le coup d'envoi pour les Rémois qui ont déjà perdu le ballon. Et peut-être la première offensive pour les Strasbourgeois sur le côté gauche. On va quand même le suivre parce que Dimitri Lénard est passé là-bas. Le centre, deuxième poteau. Attention, faut pas se tromper. Côté Rémois, le contrôle, il tergiverse un petit peu. Il va pouvoir dégager ce premier ballon chaud.
Deux équipes, Manu, qui ont des soucis également au niveau du mercato parce que forcément, bon, c'est, toutes les équipes sont logées à la même enseigne. Il peut y avoir des problèmes jusqu'au 1er septembre. Là, on le voit par exemple pour Strasbourg et tu vas nous le confirmer, Sébastien. Ajor qui est sur le banc, c'est dû à ça aussi.
Ouais, sans doute en partie parce qu'on sait que en ce moment il y a pas mal de discussions, de tractations. Alors est-ce que le joueur est 100% dans sa tête prêt à disputer un match de Ligue 1? Bien sûr, c'est une autre intensité. Il faut être tout le monde doit être à 100% pour donner son meilleur. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Woodface. Attention, ce ballon dans la surface de réparation, ça va passer juste à côté. Les Rémois qui avaient réclamé une petite main, mais Adrien Thomasson se retournant avec son pied gauche, première intention, la frappe croisée. Il était battu là, le gardien Rémois, et ça passe juste à côté du poteau. Et je le disais, ouais, on l'a vu avec Woodface, le transfert avorté au Torino. Alors il est sur le terrain, il est là, il est titulaire, mais c'est vrai qu'il a eu de deux semaines là d'errement, ensuite avec un but contre son camp contre Marseille, ça l'a pas aidé. Et c'est peut-être un petit peu ce qui se passe pour Ludovic Ajor en ce moment, voilà, même si on sait qu'il est évidemment très professionnel et qu'il aime ce club, mais on se dit que c'est peut-être le moment pour lui de partir, de changer d'air, de passer à autre chose, passer un cap dans sa carrière maintenant à son âge. Et mais pour l'instant rien de concret, alors qu'effectivement il est dans le viseur de plusieurs clubs allemands, anglais, on nous le dit depuis des semaines, mais on attend toujours des offres vraiment concrètes hein, du coup, pour que ça se concrétise justement vraiment dans les faits maintenant.
Manu Amoros oui. est avec nous en direct. Effectivement, c'est une période très délicate pour les entraîneurs.
C'est très délicat pour les entraîneurs. Moi, j'aimerais que le mercato s'arrête à la première journée du championnat. Comme ça, il n'y aurait pas de problème. Tous les joueurs seraient concentrés et surtout les entraîneurs pourraient disposer d'un effectif complet et travailler avec. Là, à Jorque, que je pense qu'on ne le fait pas jouer parce qu'on a peur qu'il se blesse et que peut-être le transfert soit avorté.
Ouais, parce qu'il est valorisé à plus de 15 millions, ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros, donc forcément.
C'est pas mal pour un club comme ça.
Bien sûr.
Donc à partir de là, on le laisse sur le banc, peut-être qu'il rentrera en deuxième mi-temps, mais c'est pas sûr. Mais voilà, moi je suis un peu contre ce mercato qui dure et que les championnats, que ce soit le championnat français ou européen, ne s'arrête pas à la première journée de championnat.
Alors n'hésitez pas, hashtag RMC Live sur Twitter pour nous rejoindre, pour suivre ce Strasbourg-Reims en direct, match qui a débuté depuis 2 minutes maintenant, et puis l'appli RMC, vos messages sur Direct Studio pour venir participer, pourquoi pas, à ce débat-là. Est-ce qu'il faut, comme le dit Manu Amoros, arrêter le mercato à la première journée?
Attention, parce que là, Junior Ito, peut-être non, il n'a pas réussi à s'emmener ce ballon, cette récupération, le genre, une touche de balle de Balogun, c'était bien joué. Et Ito, là, qui aurait pu aller défier Matzels, mais il a un petit peu manqué son contrôle et ça a permis à Lucas Perrin de revenir et de dégager ce ballon en touche. 3 minutes 20, toujours 0-0 entre Strasbourg et Reims.
Et je vous rappelle que dans un instant, on va revenir aussi sur la journée qui s'est déroulée hier et notamment la victoire de Marseille 2-1 face à Nantes.
Attention, parce que cette fois, Balogun, il est parti sur un petit ballon. Le but du stade de Reims après 3 minutes 30 et la première passe décisive de Junya Ito. Il est refusé pour hors-jeu. Va falloir la revoir celle-là parce que j'avais l'impression quand même que la course de l'attaquant et moi, c'était une belle course croisée. Le ballon est donné vraiment dans le bon tempo là, par l'international japonais Junya Ito. On va revoir cette image. Il contrôle. Première attention tout de suite. Ouf. Ça va être checké parce que franchement.
Ouais, ça doit se jouer à pas grand chose.
Alors là, va falloir réfléchir. J'ai pas l'impression que ça tergiverse beaucoup au niveau de monsieur l'arbitre. Ça va quand même demander confirmation parce que Junya Ito avait joué le coup vraiment comme il fallait, hein, à toute vitesse. Et ce but a été donc pour l'instant refusé.
Oui, il va falloir surveiller ça parce qu'effectivement, ça peut prendre du temps si on met la ligne et le révélateur parce que là, ça se joue vraiment à pas grand-chose.
Je pense qu'il est hors-jeu parce qu'il y a le bras de l'attaquant qui est devant quand même. Alors, est-ce qu'on prend le
bras? Le bras, normalement, c'est au niveau de l'épaule.
Alors que les pieds sont derrière. C'est ça qui est toujours particulier. Qu'est-ce que tu juges? Parce que ça veut dire que lui, il démarre finalement de derrière avec ses pieds. Mais comme il est en course vers l'avant, il y a un bout d'épaule qui est devant.
Balogun qui, en tout cas, confirme que c'est un attaquant de qualité.
Le hors-jeu confirmé par la VAR. Donc, le but est annulé, mais on a c'est vu tout de suite la connexion Ito-Balogun, on l'a vu tout de suite dès cette première action. Donc à suivre, en tout cas, on l'avait dit dans l'avant-match, ce japonais peut faire du bien au stade de Reims. Allez, c'est reparti dans le sens et bonne intervention de Woodfest.
Oui, on a vu Balogun notamment buteur 2 fois avec Reims depuis le début de la saison, Manu. C'est vrai que on a vu une très très belle action, ça se joue, on l'a dit, à très peu, à quelques centimètres.
C'est ça,
et il avait bien fini, Balogun.
T'as l'alignement de Strasbourg qui est bien en place quand même, parce que s'il est hors jeu, c'est que l'alignement était bon. Et puis cette entente entre Balogun et Ito qui va être très intéressante tout au long de ce match, parce que on a vu dans cette action là ce ballon en profondeur, bonne balle bien dosée, bien dans la course.
Attention, l'action, l'arrêt de Matzels après un gros numéro de Benzouzi Loco sur son côté gauche qui joue en remise avec Balogun qui lui remet un petit 1-2 magnifique dans la surface de réparation. Il est sur son pied droit, Loco, il essaye quand même de l'enrouler, elle était pas mal. Et Matzels qui va très vite au sol pour sortir cette balle. Attention, les Rémois, ils sont plutôt pas mal dans ce début de match. Sur les situations de contre, on voit que les transitions sont rapides, il y a de la qualité. Donc ça peut être un match quand même assez vivant après 6 minutes de jeu, déjà 2 belles occasions pour le stade de Reims et une pour le Racing également. Donc c'est plutôt un début de match assez intéressant.
C'est très intéressant de la part de Reims.
Et notamment Balogun qui est là et passeur pour Loco. Franchement, il montre de belles qualités, l'ancien joueur d'Arsenal, Manu.
Au niveau de la qualité technique, ça, il n'y a pas de problème. Et il a, en plus, il met bien son corps en opposition quand il est en duel. Et franchement, dans les 1-2, il est très précis. Non, ça peut être une bonne révélation pour le championnat français.
Il est prêté par Arsenal pour le stade de Reims, Follarine Balogun. Et on l'a dit, pour l'instant, c'est le meilleur buteur du club puisqu'il a marqué 2 buts, un contre Marseille et un contre Clermont. Strasbourg-Reims, on y retourne tout de suite à la méno, Sébastien.
Et ça repart dans l'autre sens tout de suite avec Thomas Delaine qui part à droite et qui va récupérer. Un corner pour les Strasbourgeois. Presque 7 minutes de jeu ici à la méno. Le stade est plein, il fait beau. Grand soleil sur l'Alsace, c'est magnifique. Il y a à peu près, peut-être une centaine de supporters du stade de Reims qui ont fait le déplacement qui n'est pas le plus long non plus de l'année, hein. Entre Reims et Strasbourg, vous avez 3 heures de route. Ça se fait, vous prenez la 4, c'est en ligne droite et vous arrivez directement au stade de la Méno. Allez, le corner pour Jean-Rickner Bellegarde là-bas, de la droite vers la gauche. Ça va être un petit peu fuyant, donc avec son pied droit, c'est pas mal tiré. Ce sera pour la tête de Younes Bellamy, de la reprise de volée. Ouais, non, elle est loin, mais avec le. Elle est très très loin en fait. Mais c'est vrai qu'avec l'illusion d'optique, Dimitri Liénard qui l'avait prise en première intention, elle était. Voilà, elle est retombée, mais elle est passée quand même. Ouais, très très loin. Dans votre voiture, c'est bon, vous pouvez reprendre votre trajectoire.
Non, mais le geste semblait pas mal, mais oui, c'est ça, finalement, c'est ça, bon, c'est vrai que ça passe
pas. C'est ça qui est trompeur. L'équilibre est beau, le geste est beau, mais le ballon
la direction
est pas,
du tout est pas bonne. Non, ouais, il y a son corps qui est un peu trop côté droit, quoi. Il aurait pu mieux valu qu'il se redresse
c'est
un petit peu
jambes,
plus
là,
face au but.
Peut-être, Manu, hein. Comment? C'est ça. Il faut mieux se placer. Le jeu de jambes est important.
Ouais. Ouais, c'est ça, parce que comme il est gaucher, il a envie de bien la reprendre et malheureusement, il se place un petit peu trop vers le poteau de corner là-bas. Donc, il aurait mieux valu qu'il se retourne un peu plus sur son côté gauche et qu'il se penche un peu plus en avant.
En tout cas, c'est un match qui est bien parti. On a occasions de part et d'autre. C'est vrai, entre Strasbourg et Reims, 13h08 pardon, sur RMC. Ça vient de commencer depuis 9 minutes. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Mais deux équipes, on le sent, qui veulent marquer des points dans ce championnat après le début difficile.
Ça cherche vraiment à aller de l'avant. Hein. On sent que voilà, c'est deux équipes qui ont pas l'air d'être dans le doute en fait. C'est surtout côté Rémois, on aurait pu se dire que. Venir à Strasbourg, c'est pas forcément évident quand t'as pris 8 buts en 2 matchs, d'être un peu sur la défensive entre guillemets. C'est pas le cas, ils sont là pour jouer. D'ailleurs, Julien Stéphan l'avait remarqué, hein. Il a dit mine de rien, ils ont pris beaucoup de buts, mais dont 3 sur coup de pied arrêté sur le dernier match, avec un carton rouge en plus. Donc voilà, quelle valeur aussi parfois accordée au but que tu prends. Il y a 3 buts déjà inscrits par les Rémois, donc c'est une équipe qui joue, qui essaie d'aller toujours de l'avant malgré tout. Il y a quand même de belles choses. Donc Julien Stéphan se méfie quand même de cette équipe du Stade de Reims. Et puis quand vous sortez de 2 matchs où vous avez pris comme ça 2 volets, vous avez forcément envie de vous rattraper, même si c'est à l'extérieur. Donc voilà, c'est pour ça que ces Rémois sont plutôt pas mal. Allez, le ballon pour les Strasbourgeois sur le côté droit avec Lucas Perrin qui va jouer intelligemment dans la profondeur pour Thomas Delaine. Ça va filer avec le tacle de Younes Bellamy. Il a essayé de l'éviter, de centrer en même temps. C'était un petit peu compliqué pour Thomas Delaine. Mais l'appel était bon dans le dos de la défense. Le ballon de Lucas Perrin était bon aussi. Mais ça ne va pas réussir à redresser ce ballon pour donner un centre vers notamment Kevin Gamero. On arrive à la 10e minute. 10 minutes pour être pas tout à fait ici au stade de la Méno. Un 6 mètres. Pour l'instant, ils ont joué tous les 6 mètres en étant très proches avec Faes et Abdelhamid en jeu court. Et là, cette fois, Pence a demandé à ses deux défenseurs centraux de sortir. Il va allonger, petite glissade, mais ça va. Le ballon va quand même aller de l'autre côté du terrain. 10 minutes de jeu à la Méno, 0-0 entre Strasbourg et
Reims. Manu, on a vu, c'est vrai, Delaine là sur cette action. Ouais. On a vu Loco tout à l'heure du côté de Reims. Ce sont les fameux pistons. C'est vrai que ce sont deux équipes qui jouent avec des pistons très très importants, évidemment, dans le système de jeu des deux entraîneurs.
Oui, aujourd'hui, pratiquement.
Presque la moitié des équipes de Ligue 1 jouent comme ça.
C'est ça, qu'elles jouent avec 3 défenseurs et 2 pistons. Alors, ça peut être des latéraux, ça peut être aussi des ailiers qui utilisent ces couloirs. Moi, je trouve que c'est bien. Ça amène beaucoup d'animation offensive. Mais après, il faut faire attention au niveau replacement défensif. Et surtout, avoir une bonne entente avec les 3 centraux. Parce que si tu, aux entraînements, tu travailles ce schéma-là, ce système-là, il faut que les centraux de côté couvre bien ces joueurs en piston. Donc c'est très intéressant pour l'instant des deux côtés.
Et toi, t'as joué comme ça avec Marseille, non?
Avec Marseille, avec Monaco aussi. Hein.
Avec Monaco, oui. T'étais un piston aussi de temps en temps.
Moi, j'étais un piston. J'ai révolutionné le poste de latéral.
Bah non, mais c'est vrai. Grand latéral.
Ouais, mais à l'époque, on ne jouait pas avec 3 centraux, on jouait plutôt avec 2 centraux. Quoi. Donc, il fallait que le défenseur central qui était de mon côté joue bien le coup. Et le latéral de l'autre côté vient de couvrir quand même.
En tout cas, c'est vrai que c'est une mode qui est un petit peu partout en Europe. Notamment en Italie, on joue beaucoup comme ça et en Ligue 1, on s'y met de plus en plus. Ouais. Et là, on a la preuve avec ce match entre Strasbourg et Reims.
Et puis, ça permet d'avoir un milieu aussi un peu étoffé et de faire un pressing vachement plus haut.
Tout à fait. 0-0 toujours entre Strasbourg et Reims, alors qu'il est 13h11 sur RMC. On va suivre également aujourd'hui, à partir de 14h, le Grand Prix Moto, le Grand Prix d'Autriche avec Paul Lafitte. Dans un instant, on retrouvera Paul pour présenter ce Grand Prix très intéressant avec Quartararo et Zarco qui partiront en deuxième ligne. Et puis ensuite du cyclisme, la Vuelta. Johan Bredov est avec nous. Salut Johan.
Salut François, salut à tous.
Troisième étape pour la Vuelta, ouais. C'est donc le Tour d'Espagne, mais pour l'instant ils sont toujours aux Pays-Bas, ouais. Les coureurs.
Exactement, exactement. Le même format que pour les deux précédents grands tours. Trois jours aux Pays-Bas. Demain ça sera un transfert. Donc voilà, dernière étape de la Vuelta aux Pays-Bas. C'est parti depuis une quinzaine de minutes maintenant. On a déjà sept hommes en tête: José Herrada, Julius Vandenberg qui porte le maillot blanc à poids bleu du meilleur grimpeur, Jan Bakelungs, Thomas De Gendt, Okamika, Mikel Iturria, beaucoup d'Espagnols donc évidemment pour se montrer à l'avant, et un Néerlandais. C'est parti donc, je le disais, hein, depuis 10 minutes, il reste encore 180 km. C'est tout plat aujourd'hui, comme hier. Évidemment, on est aux Pays-Bas, donc on ne va pas s'attendre à des montagnes. Il y a une seule petite difficulté, quatrième catégorie, pour donner voilà, deux points à celui qui passera en tête. Mais on s'attend évidemment à un sprint massif comme hier. Et on attend les mêmes. Hein. Là, il y a la Bora qui mène le peloton avec la Trek, la Bora de Sam Bennett qui l'a emporté hier, qui a levé les bras, le vétéran irlandais. La Trek de Mats Pedersen également, qui a fini deuxième. On attend Tim Merlier. On attend évidemment la meilleure chance française, c'est Brian Coquard qui a fini loin hier. Il était 18e, il n'a pas pu disputer pleinement ses chances. Mais voilà, on s'attend évidemment aux Pays-Bas, un sprint massif pour cette dernière étape aux Pays-Bas de la Vuelta.
Ok Johan, on suit ça de très près avec toi bien sûr. Du vélo, mais pour les championnats d'Europe de Munich avec Valentin Jamin. Salut Valentin.
Salut François, bonjour à toutes et à tous.
Avec cette dernière journée pour les championnats d'Europe et avec notamment la course en ligne féminine.
Oui, il se passe beaucoup de choses. Encore 66 km à parcourir. Là aussi, c'est tout plat, en tout cas sur la seconde partie de la course, promis aux sprinteuses. Il y a eu une première échappée avec 5 coureuses, notamment la Française Audrey Cordon-Rago. Finalement, cette échappée reprise à 80 km de l'arrivée. Puis là, à la faveur de faux plats montants, quelques petites côtes. On a attaqué un petit peu, j'allais dire, dans tous les sens pour déstabiliser notamment l'équipe néerlandaise qui est la grande favorite dans ses rangs en la personne de Lorena Wiebes. Et donc, il y a un coup qui était parti avec une autre tricolore, Juliette Labousse, finalement repris. Bref, le peloton là est groupé, mais ça a fait mal à certaines filles, toutes ces accélérations. On va voir si d'autres coureuses arrivent à sortir sur la fin de course, où je vous le disais, c'est complètement plat et où tout le monde voit s'imposer Lorena Wiebes, qui a gagné deux étapes, notamment du Tour de France Femmes cette année, Audrey Cordon-Rago ou encore donc Juliette Labousse côté français. Clara Copponi, qui était la meilleure carte au sprint, malheureusement elle a eu le Covid, donc elle n'est pas là. Côté tricolore, encore 65 km à parcourir en direction de Munich.
Merci beaucoup Valentin, on te retrouve bien sûr pour suivre cette épreuve. Strasbourg-Reims, il se passe des choses avec des cartons jaunes sortis là par l'arbitre du match, Sébastien Ruffet.
Ouais, parce qu'il y a une situation, alors je ne vous ai pas interrompu, mais une situation avec un ballon en profondeur où Julien Ito est au duel avec Alex Djikou. Il passe dans son dos, il y a peut-être un accrochage, on n'a revu qu'une seule fois l'image, un accrochage entre les deux joueurs, mais Ito se relève plus vite que Djikou pour ensuite poursuivre son action. On revoit, il y a peut-être un pénalty, il y a quand même une faute sur Ito, mais ouais. Ito se relève immédiatement pour jouer ce ballon. Il joue ensuite en retrait et la frappe de son coéquipier, je crois que c'était Balogun, n'est pas cadrée ensuite. Donc les joueurs de Reims ont protesté en disant que l'arbitre aurait peut-être pu revenir à cette faute et siffler un pénalty. Et derrière, il y a Maxime Buzy qui est venu râler un petit peu fort. Il a pris un carton jaune. Et puis sur les bancs, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi Julien Stéphan a traversé, sorti de sa zone technique pour venir devant celle du stade de Reims. Ça lui a valu un carton jaune. Et Oscar Garcia a lui aussi pris un carton jaune. Alors, parce voilà. Qu'il a protesté sur ce non coup de sifflet entre guillemets de l'arbitre. Donc voilà, situation un petit peu particulière, parce que c'est vrai que l'intervention de Djikou sur Ito, elle est plus que limite, parce qu'il ne le voit pas venir. Mais sauf que derrière, le japonais se relève tout de suite et poursuit son action. Ouais. Il a estimé que l'avantage avait été laissé et avait été Rudy Buquet a estimé qu'il avait profité finalement cet avantage et n'est pas revenu à cette faute.
Manu oui, Amorouche, effectivement, oui, là, si Ito reste par terre, peut-être que l'arbitre prend une autre décision.
Oui, il peut prendre une autre décision, mais il a pas mal joué non plus, parce qu'il a récupéré le ballon, il est allé fixer, il a mis en retrait.
Ouais, mais est-ce qu'il y avait faute pour toi de Djikou, là? Est-ce que la poussette valait
la poussette, elle y est, Mais comme disait Sébastien, il s'est tellement relevé très, très, très vite que l'arbitre a laissé jouer l'avantage. Donc on peut pas non plus dire que l'arbitre aurait pu revenir sur l'action alors qu'il y a un avantage et qu'il aurait pu être concret, parce que derrière, il aurait pu avoir un but.
Exactement. Strasbourg-Rhin, Sébastien Ruffet, on a passé le quart d'heure de jeu, toujours 0-0.
Ouais, c'est ça, 16 minutes de jeu à la méno, 0-0. On ne s'ennuie pas hein, depuis le début de cette partie, avec tout à l'heure notamment un but refusé hein, pour le Stade de Reims pour quelques petits centimètres de Balogun sur un bon service de Ito. Et on a vu aussi des situations évidemment côté strasbourgeois tout à l'heure avec Thomasson et côté Rémois. Donc c'est vraiment un bon début de match entre deux équipes qui cherchent à aller prendre des points. Sous Julien Stéphan, le Racing n'a jamais perdu deux fois de suite à la méno. Voilà, si vous voulez un petit peu de statistiques, sachant qu'ils ont perdu à la première journée ici contre Monaco. Voilà, c'est pas forcément quelque chose pour rassurer les supporters rémois qui nous écouteraient.
Ouais. Ils sont pas partis pour gagner ce match-là, hein, parce que vu la qualité aujourd'hui de Reims, c'est vraiment pas mal. Hein.
Ouais. Reims, c'est vrai, tout à fait. Et justement, on parlait, Sébastien, de ce Ito là qui s'est montré, qui s'est mis en évidence.
Ah, moi, il me plaît beaucoup. Hein. Hein,
très attendu par Reims. C'est la recrue la plus chère de l'histoire hein, du club. Hein.
Ouais, c'est ça. Un joueur de 29 ans, donc déjà un joueur confirmé hein, qui connaît bien les championnats européens, puisqu'il jouait à Genk en Belgique. En tout, il a joué 144 matchs en Belgique entre la Coupe d'Europe, la Coupe, le championnat. C'est quand même 29 buts et 49 passes décisives. C'est quand même assez énorme. Il est pratiquement décisif un match sur deux. Pareil au Japon avant au Kawashima Resol, il était à 124 matchs, 22 buts, 33 passes D. Donc on voit que c'est vraiment un joueur qui est là aussi pour faire jouer ses coéquipiers, qui a une vraie qualité de passe. Et on s'en rend compte hein, sur ce premier quart d'heure, toutes ses prises de balles, elles sont propres, il se tourne vite vers l'avant, il joue en première intention, c'est très juste. C'est vraiment un beau joueur. Moi, pour l'instant, franchement, sur ce premier quart d'heure, il me plaît beaucoup et indiscutablement, il va amener quelque chose à cette équipe de Reims. Une touche technique, une touche créative, c'est sûr et certain. Quoi. C'est vraiment un très beau joueur. Et effectivement, 36 sélections également. Équipe du Japon, voilà, c'est pas non plus une petite sélection le Japon, donc ça veut dire aussi que c'est un joueur qui fait tout simplement partie des meilleurs de son pays et qui peut être une belle attraction pour notre championnat.
Sébastien, ils l'ont acheté combien sans...
Je sais plus,
c'est 10 millions, je crois.
Combien? 10 millions. Ouais, 10 millions, c'est pas très cher parce que il doit vendre sûrement beaucoup de maillots au Japon.
Ah oui.
Donc la rentabilité pour Reims doit être bonne.
Oui. Ben après, il y a pas que ça parce qu'effectivement, comme l'a dit Sébastien, c'est un Japonais qui a réussi en Europe. Donc le temps d'adaptation, il l'a déjà eu en Belgique. Ouais. Et c'est vrai que c'est un super passeur. Quoi. C'est vraiment, il a été pris pour ça, pour faire des passes décisives. Au vu de ses stats, en tout cas, ça a l'air d'être une bonne pioche. Après. Il n'a pas pu démarrer les deux premières rencontres, donc évidemment, il faudra voir aussi sur le plan physique ce que ça donne. Pour un, s'il te plaît aussi, toi, en tout cas sur ce que tu vois du début de match.
Ah oui, moi, il me plaît. Oui, il me plaît beaucoup parce que quand tu vois au niveau offensif, il est toujours présent, il veut récupérer le ballon, il va le chercher et il fait participer ses partenaires. Et au niveau défensif, on le voit bien aussi, il vient de défendre. Donc physiquement, pour l'instant, il a l'air, comme tu le disais, bien. Il va falloir attendre peut-être quelques matchs encore, voir si cette adaptation qui doit avoir lieu assez facilement parce qu'il a joué en Belgique, voir s'il arrive à s'adapter et récupérer et enchaîner les matchs.
Ouais. En tout cas, pour l'instant, il est bien en jambes, je vous confirme. C'était bien 10 millions hein, le transfert, ouais. Je vous confirme le chiffre.
Ok, on revient dans un instant sur RMC. Strasbourg-Reims, pour l'instant 0-0. On joue la 20e minute. On revient dans un instant avec Sébastien Ruffet, bien sûr, avec Manu Amoros également. Et puis, supporter de Marseille, venez au 32-16 nous rejoindre et rejoindre Manu Amoros, votre légende, pour revenir sur le match Marseille-Nantes.
Ah oui, quoi dire,
Marseille hier. Il y a pas mal de choses à dire. Ouais. On en parle avec Manu dans un instant. On écoutera également les deux entraîneurs à la victoire de Marseille 2-1. Venez nous dire ce que vous en avez pensé. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
François Pinet.
Il est 13h21. Vous êtes sur RMC à l'écoute de l'Intégral Sport avec Manu Amoros. Bien évidemment, dans un instant, on va parler de l'Olympique de Marseille qui a gagné hier son deuxième match au Vélodrome. Victoire 2-1 face à Nantes. Il y a énormément de choses à dire. On entendra les acteurs de cette rencontre et notamment les deux coachs. Et puis, on vous attend au 32-16 supporters marseillais pour venir réagir ou encore sur le hashtag RMC Live sur Twitter, sur l'appli RMC Direct Studio pour laisser vos messages. Bien évidemment, la Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui. Des matchs à 15h, bien sûr. On vous les présentera dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Et puis, en moment, on suit Strasbourg face à Reims. C'est le match que l'on suit en direct et en intégralité avec Sébastien Ruffet au stade de la Méno. Toujours 0-0, Sébastien.
Ouais, 0-0 après 22 minutes de jeu. Attention, cette passe en retrait de Thomas Delaine là, qui est sauvé par Madsels qui s'est jeté là pour empêcher le corner. 22 minutes donc toujours 0-0, mais on ne s'ennuie pas. Franchement, c'est un très bon match de Ligue 1 là, depuis tout à l'heure avec pas mal d'occasions, beaucoup d'intensité. On se demande d'ailleurs si les deux équipes vont réussir à garder ce niveau-là d'intensité parce que dans les duels, c'est assez costaud hein, que ce ce soit au milieu de terrain ou aux deux côtés du terrain. On a vu un duel tout à l'heure entre Woodfess et Habib Diallo, c'était costaud. Et on peut rassurer aussi un petit peu les Rémois. Woodfess, il est bien dans son match, hein. Tout à l'heure il a mis un tacle superbe là dans la surface, plein d'autorité sur Habib Diallo qui allait frapper, qui était rentré. Le public s'est levé, mais il y avait absolument pas faute. Très belle intervention du grand chevelu là du stade de Reims qui vient se positionner pour ce corner justement pour les Champenois. Il va être tiré par Junya Ito là-bas sur le côté gauche. Ça va jouer à deux avec Balogun. On va jouer en retrait vers Doumbia. On ressort ce ballon pour écarter là-bas deuxième poteau. C'est pas mal, c'est travaillé. Remise vers l'axe de Woodfess. Massette va pas la prendre. Ito, ça va passer au-dessus. Ouh, on sent que c'est quand même travaillé, je pense, cette situation-là, parce qu'ils l'ont joué à deux à gauche pour ressortir sous Doumbia au 20 mètres, qui a centré deuxième poteau pour la remise de la tête de Woodfess vers l'axe. Et la défense strasbourgeoise savait plus trop comment se positionner avec ces ballons qui allaient de gauche à droite. Et ça a bien failli finir en but avec cette demi-volée là de Junya Ito, qui était revenu dans le jeu mais qui a été touché par un Strasbourgeois. Donc deuxième corner à venir pour les Strasbourgeois. Et c'est le Japonais qui a fait toute la largeur pour aller tirer de l'autre côté. Et monsieur Rudy Buquet qui vient voir un petit peu les joueurs pour que ça arrête de se tirer par le maillot ou de s'accrocher par le bras. C'est pas le moment. Donc attention, Djikou qui est tout à l'heure qui était limite hein, sur Ito, faut qu'il fasse attention au marquage d'Andrew Gravillon parce que je pense que l'arbitre l'a déjà un petit peu dans le collimateur. Allez, c'est tiré, deuxième poteau, c'est pas mal tiré, mais ce sera pris par Thomas Delaine avec peut-être un contre qui peut s'amorcer. Non, Sanin Persic qui revient sur ses pas mais qui envoie quand même une longue là-haut vers Habib Diallo. Ce sera intercepté par la défense rémoise, en l'occurrence Mounetsi là, qui était revenu, qui a fait cet effort pour dégager ce ballon. Voilà, presque 25 minutes de jeu ici au stade de la Méno, toujours 0-0, mais on ne s'ennuie pas entre Strasbourg et Reims.
Les Rémois dangereux, Manu, et on a vu cette combinaison. Oui. Alors au départ, je disais, mais qu'est-ce qu'ils font?
On s'est dit la même chose,
honnêtement,
je crois.
Et finalement, c'était pas si mal, Manu. Hein.
Ouais, c'est pas si mal parce qu'on voit Faez qui se met carrément au deuxième poteau à chaque fois que les corners sont tirés, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, il y a pratiquement pas de marquage sur lui, donc il y a la possibilité de le trouver au second poteau. Mais c'est vrai que cette combinaison, c'est, toutes les combinaisons que les équipes font, elles sont toutes travaillées aux entraînements et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus précis à force de les travailler. Mais c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir, si Vito s'était penché un peu plus sur le ballon.
Ouais, une belle occasion.
Ouais, une belle occasion de but. Mmh. Ouais.
Là, franchement, c'était une très très belle occasion pour les Rémois qui mettent en difficulté cette équipe de Strasbourg. Sébastien Ruffet. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas flamboyants, les Strasbourgeois. Ils sont assez vite pris au milieu de terrain aussi. Les difficultés à s'organiser, à sortir proprement le ballon, alors qu'ils ont plutôt tendance, on le voyait la saison dernière, à être capable de sortir des ballons proprement, à se projeter assez vite. Et là, vraiment, le duel physique imposé par les Rémois est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est aussi à voir comment cette équipe de Strasbourg va pouvoir se réinventer un petit peu, parce que tout le monde disait la saison dernière, Strasbourg, c'est une équipe physique, qui nous impose un défi physique. C'était Crépin Diatta à l'issue du premier match entre Strasbourg et Monaco qui nous le disait aussi. On savait que ça allait être physique, donc on a voulu répondre dans cet engagement. Donc les qualités attendent sur le centre de Ito, il est très bon, la reprise de Doumbia. Oulala, elle était au 6 mètres et elle s'envole dans le cop. Oulala, ça se précise quand même là pour les Rémois avec ce bon débordement très enjambé. Ito pour l'instant sur le côté droit, le centre il est vraiment impeccable, il est magnifique. Il y a un premier duel qui est entre Balogun et Djikou, ce ballon qui retombe entre les deux hommes et Doumbia qui traîne là au 6 mètres, qui se penche pas assez avec son pied gauche. Là il est un petit peu, il la prend un peu extérieur, pardon.
Elle est assez haute la balle.
Oui, c'est ça.
Mal à la reprendre quand même.
Ouais, elle est un petit peu haute. Il se penche pas suffisamment. C'est compliqué. Il veut jouer vite forcément. Et elle s'envole. Mais c'est encore une très très belle situation pour les Rémois. Et je disais que si Strasbourg perd cet avantage physique, athlétique sur ses adversaires, il va falloir aussi trouver d'autres situations, un autre style de jeu peut-être, je ne sais pas, il va falloir se réinventer un petit peu parce que pour l'instant les Rémois répondent vraiment présents dans cet impact.
Ouais, mais Sébastien, tu vois, on a vu le match contre Monaco où ils ont fait une première mi-temps aussi catastrophique. Ouais. À Nice, ils n'ont pas été très bons non plus en première mi-temps et là aussi ils font une première mi-temps qui n'est pas très bonne dans le jeu parce qu'ils font plutôt un jeu direct pour les attaquants, mais ils sont imprécis. Donc les Rémois récupèrent régulièrement le ballon et eux, ils arrivent va mieux la sortir.
Mm-hmm. Ah oui, c'est vrai que le porteur de balle strasbourgeois, quel qu'il soit, est vite mis sous pression. Donc forcément, on se débarrasse entre guillemets un petit peu du ballon, quoi. On essaie de jouer très vite. Attention, on la passe en retrait à De Gravillon là. Il a mis Patrick Pence en difficulté, mais ça va. Le gardien Rémois va pouvoir maîtriser ce ballon et réécarter vers Younes Bellamy. rapide qui à son tour lui va allonger le long de la ligne. Là il a bonne intervention de Djikou. Il y en a qui fait un bon match aussi pour l'instant, c'est Loco, hein. Benzouzi Loco là sur le flanc gauche, le piston gauche du stade de Reims, il est bien là pour l'instant, il est bien en jambes, il est bien dans les percussions, offensivement il apporte. Donc c'est un côté à surveiller parce qu'avec Thomas Delaine ça fait quand même un duel assez sympa à suivre. Allez, le ballon justement sur Thomas Delaine, là sur le côté droit qui va centrer avec son pied gauche. On sait qu'il a les deux pieds vu qu'il jouait arrière-gauche, hein, pendant quelques années au FC Metz. Il a arpenté le flanc gauche du FC Metz et maintenant voilà, il prend le côté droit puisqu'il y a Dimitri Lénard de l'autre côté. Oui. 29e minute ici précisément au stade de la Méno, toujours 0-0 entre Strasbourg et Reims.
Et bien sûr, dès qu'il se passe quelque chose, Sébastien, tu nous fais signe. On va parler un petit peu de Marseille qui hier s'est imposé 2-1 face à Nantes et on accueille Benoît sur RMC. Salut Benoît.
François, bonjour Manu.
Salut Benoît. Merci d'être avec nous pour revenir sur cette rencontre et cette victoire marseillaise. Donc je le disais, 2-1, une rencontre qui aurait pu mal tourner, hein, puisque l'OM a pris un carton rouge, celui de Gigot. Il y a Nantes qui a égalisé et finalement c'est Marseille qui s'est imposé 2-1 avec un but contre son camp de Palois. Ça fait deux victoires en deux matchs au stade Vélodrome pour l'OM. Alors tout n'est pas parfait Manu, mais bon, on peut souligner la force de caractère de Marseille qui s'impose dans des conditions compliquées.
Oui, c'est vrai qu'ils sont imposés difficilement contre une très bonne équipe de Nantes. Mais bon, moi, il m'a manqué beaucoup de choses. Il m'a manqué de la qualité technique, de la qualité collective, de ressortir les ballons proprement, même si là, c'est plutôt un jeu direct, un jeu où il faut courir pendant 90 minutes, pas laisser de répit à l'adversaire. Mais bon, à un moment donné, tu ne veux pas courir pendant 90 minutes. Tu as besoin des temps forts et des temps faibles. Et même dans les temps faibles que Marseille a eu, ils n'arrivaient pas à ressortir proprement le ballon. Donc même si l'entraîneur nous parle d'un certain équilibre autour de cette équipe-là, on a vu Sanchez qui était tout seul devant. Il a mis Guendouzi avec Gerson, mais ce n'est pas des attaquants purs. Donc il aurait pu éventuellement mettre au moins à la maison un attaquant à côté de Sanchez pour le faire briller davantage, parce que Sanchez hier il fait quand même un très bon match dans tout ce qui a été technique, prise de balle. Il ne s'est pas créé d'occasion, mais il était tout seul devant. Donc Marseille très compliqué, très difficile, et il va falloir voir comment après ça va s'enchaîner contre des équipes un peu plus huppées que Nantes.
Alors Benoît, est-ce que tu es d'accord toi avec ce que vient de dire Manu et son analyse? Il attend beaucoup plus de l'équipe marseillaise, toi en tant que supporter, qu'est-ce que tu en penses?
Alors clairement oui, moi aussi j'attends beaucoup plus, et il y a une première chose que j'ai notée sur les trois matchs d'ailleurs, parce que ça ressort de manière assez flagrante. Hier soir il fait jouer Guendouzi en tant que milieu offensif parce qu'on est presque en soutien d'attaque. On sait que Guendouzi c'est pas son poste. Il y a déjà un premier problème, c'est Payet. Théoriquement ça devrait être lui le joueur à ce poste là et on voit bien qu'il manque un lien entre le milieu et l'attaque. Ce qui ressort, c'est que sur les trois matchs, ce sont les pistons. Ils font quasiment tout le jeu offensif et pas forcément les attaquants, parce que ce soit Alexis Sanchez ou Milik, on les a très peu trouvés sur les trois premiers matchs, voire même on les a carrément pas cherchés. Ça me pose déjà un premier problème. Le deuxième, c'est qu'effectivement, on a moins la possession de la balle que l'année dernière, parce que clairement, on fait beaucoup moins tourner que sous l'ère Sampaoli. Mais du coup, j'ai du mal à voir se dessiner de réelles occasions. Il y a eu 15 tirs hier soir, seulement 5 de cadrés, c'est pas beaucoup pour l'OM. Ce qui veut dire que le problème, il n'est peut-être pas offensif, mais moi je pense qu'il y a quand même un problème stratégique. J'ai un peu de mal en fait à comprendre l'idée de jeu première de Igor Tudor. Non. Je sais pas pour vous, mais personnellement je vois pas vraiment en fait où est-ce qu'il veut en arriver.
Alors effectivement hier, et tu le rappelles pour ceux qui n'ont pas vu le match, Sanchez était parfois très isolé en pointe, et tu l'as dit Manu, c'était Gerson et Guendouzi qui étaient censés être les deux 10 là pour l'appuyer. Payet, Milik, Kunder, Bakambu sur le banc, il y avait du monde quand même offensivement sur le banc, et c'est vrai que offensivement il y a eu peut-être, Benoît, beaucoup de problèmes techniques aussi, hein, qui ont empêché l'OM d'avoir plus d'occasions.
Alors oui, bon, il y a beaucoup de déchets. Il faut rappeler aussi que Nantes est une équipe qui défend bien. Malgré tout, depuis le début du championnat, ils ne flambent pas par leur jeu offensif, mais derrière, ils sont quand même très costauds avec un Alban Lafont qui est quand même très en jambes sur le début de la saison. Mais derrière, ça veut dire que Marseille n'a pas la capacité actuellement d'aller chercher ce petit plus offensivement pour pouvoir faire bouger un bloc qui est quand même bien en place. Donc malgré tout, il ressort quand même une forme de carence, et je te rejoins, je ne comprends pas pourquoi se passer des armes offensives qu'il a actuellement sur le banc, sachant qu'on a vu au premier match que ça avait quand même mieux fonctionné avec des joueurs à leur poste.
Alors, Benoît.
Mais le fait de, Benoît, le fait de courir aussi beaucoup sur un terrain, t'as moins de lucidité dans la dernière passe. Et on a pu le voir régulièrement, Guendouzi, il a manqué des passes, je dirais, assez simples, parce qu'elle était trop forte, parce qu'elle était trop molle. Mais ça, comme tu cours pratiquement tout le match, ben, la lucidité, tu l'as plus.
Alors, c'est vrai.
Benoît, je voulais juste qu'on écoute Antoine Comboiré, l'entraîneur de Nantes, sur Alexis Sanchez, justement, puisque c'était quand même une des curiosités hier, sa première titularisation au Chilien. Écoutez Antoine Comboiré, c'est assez intéressant ce qu'il dit.
Ce sont des grands joueurs s'ils le prouvent sur le terrain. Donc, c'est un grand joueur. Maintenant, il sera attendu ici. Ce qu'il a été capable de faire ailleurs, il faut qu'il le fasse ici. C'est comme ça que vous êtes jugé toujours sur le présent. Mais c'est clair que c'est un vrai renfort pour Marseille. On a vu ce soir, alors certainement qu'il n'est pas prêt physiquement encore. Ça va être un très très bon joueur. Après, s'il a des attaquants autour de lui, peut-être que c'est plus facile. Vous avez compris le message.
Antoine Comboiré qui donne un conseil à Tudor. Hein. Il a dit, voilà, c'est peut-être mieux avec des attaquants autour de lui, Manu.
Ouais, mais Tudor lui a répondu que lui, son principal souci, c'est l'équilibre de l'équipe.
Exactement.
Et c'est ça qui est un peu dommage, parce que avec un attaquant supplémentaire ou deux attaquants de plus, je pense que Marseille aurait fait la différence plus largement.
Ouais. Oui.
Benoît, t'es d'accord avec ça?
Alors, je suis d'accord avec ça, et puis finalement, ça abonde aussi dans le sens des rumeurs qui circulent auprès de Tanguy Zunder pour l'échange avec l'Atalanta. Clairement, il veut se débarrasser des joueurs de couloir pour avoir des attaquants plus vraiment plus des pointes, entre guillemets. Si j'ai bien compris, ce qu'il veut faire, c'est avoir en fait trois attaquants, vraiment attaquants, pas des ailiers, réellement des attaquants. Donc ça semble effectivement abonder dans ce sens-là. Sa tactique de démarrage hier l'a encore prouvé. Maintenant, moi je suis quand même inquiet, parce que ça veut dire qu'on arrive à la fin du mercato et que réellement l'effectif n'est pas armé tel que Tudor le visualise. Ça c'est plus inquiétant à mon sens.
Alors Benoît.
Non mais Benoît, oui. Pardon.
Vas-y Manu.
Benoît, le problème qu'il y a aussi, c'est que les Pistons, Tavares et Klose, ils ont une liberté au niveau offensif qui empêche à l'entraîneur de mettre des attaquants supplémentaires. Parce que si tu mets des attaquants supplémentaires et s'ils restent vraiment sur le côté, Tavares et Klose, ils ne font plus leur rôle de piston. Donc c'est pour ça qu'il veut privilégier ses rôles de piston et mettre peut-être un seul attaquant, mais avec peut-être un milieu ou deux milieux supplémentaires qui s'incrustent avec Sanchez éventuellement dans l'axe.
Ouais. Alors on va remercier Benoît, hein, parce que le problème c'est quand on met deux Marseillais ensemble dans la même pièce, ils refont le match pendant des heures, mais c'est normal, c'est le principe. Merci en tout cas,
merci
Benoît d'être passé sur RMC. À très très bientôt, et merci pour ton analyse que je pense qu'elle est partagée par pas mal de supporters. Marseille 0-0 toujours entre Strasbourg et Reims, on y retourne dans un instant, mais d'abord un petit détour par les championnats d'Europe à Munich avec le canoë kayak. Morgan Maury, salut Morgan.
Bonjour François, bonjour Manu.
Salut Morgan.
Bonjour à tous. Il y a des courses de canoë pour cette dernière journée, du canoë sprint, hein, pas du canoë slalom. Pas de médaille encore pour les valides. Il y a du para canoë, je vous en parle dans un instant. En double, Adrien Barthe et Loïc Léonard ont pris la 7e place de leur finale. La prochaine finale pour une tricolore, c'est à 14h26 à 13h57 avec Eugénie Dorange sur le canoë simple sur 200 mètres. Ensuite le K4 féminin et le kayak 5000 mètres avec Cyril Carré. Le para canoë lui a porté 3 médailles. Nelia Barbosa en kayak 200 mètres, Rémi Boulet en kayak 200 mètres chez les masculins, et avant-hier il y avait Eddy Potvin en pirogue. Une médaille pour le canoë valide hier avec le K4 500 mètres pour les garçons. Ça continue tout l'après-midi. Il y aura aussi de la gym dont on parlera tout à l'heure, les finales paragré en gymnastique artistique masculine, François.
Parfait Morgan, merci beaucoup, tu as été parfait. On te retrouve bien sûr tout au long de cet après-midi sur RMC. Allez, le temps, le score, Sébastien Ruffet, entre Strasbourg et Reims.
Et bien on joue la 37e minute ici et toujours 0-0 entre les deux équipes.
Et on revient dans un instant bien sûr pour suivre ce Strasbourg-Reims, match de la 3e journée de Ligue 1. On parlera également des autres rencontres attendu à partir de 15h sur RMC. Et puis la moto, le Grand Prix d'Autriche, présentation dans un tout petit instant sur RMC. Restez avec nous, on revient dans moins d'une minute.
RMC, Intégral Sport.
François Pinet.
13h39 sur RMC, ravi de vous retrouver avec Manu Amoros. On suit Strasbourg-Reims, on y retourne dans un instant. Pour l'instant 0-0 entre les deux équipes dans ce match de la 3e journée. Je vous rappelle également qu'on vous présente dans un petit instant les matchs de 15h de cette 3e journée de Ligue 1. Et puis on suit également les championnats d'Europe à Munich, dernière journée aujourd'hui, avec peut-être des chances de médailles françaises. En tout cas on va suivre de très près ce qui se passe du côté de la course en ligne féminine. Valentin Jamin suit ça pour nous.
pour les Françaises d'aller chercher une médaille. Je vous le rappelle, un parcours promis aux sprinteuses. Il reste 45 km à parcourir. Peloton groupé, mais les Françaises mettent littéralement le feu à la course. On avait vu Audrey Cordon-Rago partir dans une échappée en début de course, puis Juliette Labousse. Ça s'est agroupé. Et derrière, on a vu des attaques dans tous les sens des tricolores. Valentine Fortin, Coralie Demey qui sont allées de leur attaque. Pour l'instant, elles n'arrivent pas vraiment à créer une échappée. On a bien compris que la stratégie, c'était de désorganiser les équipes de sprinteuses. Et on voit Juliette Labousse, quatrième du Tour de France cet été, qui est encore à l'attaque et qui emmène dans sa roue une coureuse allemande. Pas de trou effectué, mais on tente vraiment, là c'est la stratégie des tricolores, d'essayer pourquoi pas d'arriver dans un petit groupe au sprint à Munich, où l'arrivée sera jugée dans 45 km maintenant.
Allez, on va du côté de la Méno, parce qu'un bon coup franc pour les Rémois est à venir, Sébastien Ruffet.
Oui, avec une intervention limite. Alors ça discute beaucoup, parce que faute, pas faute, en tout cas c'est un ballon dans la profondeur vers Balogun, ballon qui est déjà peut-être un peu long. En tout cas, il y va, l'attaquant Rémois, il est au duel avec Djikou. Est-ce que Djikou le retient un petit peu par l'épaule? C'est pas évident. En tout cas, Balogun s'effondre très rapidement. Ça joue, et puis Monsieur Buquet décide finalement de...
Ou peut-être qu'il a... ensemble, je crois, Sébastien.
Ou peut-être en bas, peut-être au niveau des pieds. Alors peut-être dans, mais c'est vraiment dans la course, quoi. Il n'y a pas de volonté de. Alors que le ballon n'est plus jouable pour l'attaquant Rémois, c'est ça aussi. Ouais. Parfois, il faut voir l'intentionnalité aussi parfois et la conséquence, parce que là, le ballon, il est absolument plus jouable pour l'attaquant Rémois. Ça discute encore beaucoup. Ça devrait donner un très bon coup franc, vraiment à la limite des 16 mètres pour le stade de Reims. Il y a Dimitri Lénard et Inès Abdelhamid en grande discussion avec Monsieur Buquet. Est-ce qu'il attend peut-être une validation de la VAR, peut-être pour un éventuel pénalty, peut-être, parce que c'est vrai qu'on est très très proche, non?
Je pense à un hors-jeu, Sébastien.
Ah, hors-jeu peut-être
au départ de l'attaquant Rémois, peut-être. Peut-être, hein.
Ah oui, alors donc effectivement, on est en train d'attendre sans doute les décisions des arbitres qui sont dans qui décident avec la VAR, bien sûr. Parce que on revoit ce qui s'est passé. Franchement, c'est difficile de juger.
Ouais, c'est long quand même.
Hein. Ah bah oui, c'est long, Manu.
Ah ouais, c'est incroyable.
À ça, on sait à quel point c'est long et on connaît bien sûr les problèmes par rapport à tout ça. Mais bon, en même temps, ils veulent pas se tromper. Manu, ouais. Tu comprends?
Non, mais bon, tu peux. Non, mais avec aujourd'hui la technologie qu'on a, on arrive à avoir des décisions très rapides. Au hard le tennis, avec le hockey, c'est ça, non, je crois? On a une décision très rapide.
Ouais, mais c'est pas pareil, c'est une balle,
Oui, mais bon, et là, c'est pareil. C'est un joueur, s'il est hors jeu ou pas hors jeu, ou s'il y a faute ou il n'y a pas faute, ou s'il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty. La décision doit être prise assez rapidement, quand même.
Ils sont tous
dans le bus pour pouvoir prononcer une décision rapide.
Là où je suis d'accord, c'est que sur un hors-jeu, maintenant, si on définit que quelle que soit la partie du corps, si elle est devant, c'est hors-jeu, t'as pas à discuter pendant 3 minutes. C'est pas comme si on regardait la ligne de pied, oui, mais machin. Bon,
non. En tout cas, le coup franc
a été validé finalement par Monsieur Buquet. On est à 17 mètres, mais. Relativement décalé sur le côté gauche quand vous regardez la cage de Matt Sells, donc c'est pour un droitier et c'est immédiatement Follarin Balogun qui s'est saisi du ballon. Il n'y aura pas de discussion possible, c'est lui qui va le tirer puisque tous les autres se sont écartés, donc il prend le temps pour l'instant l'attaquant et moi de se concentrer. Il fait une bonne première mi-temps, Balogun très remuant, dur dans les duels, toujours disponible, quelques situations devant le but pour lui avec un but refusé tout à l'heure. Et M. Buquet donc l'autorise maintenant à jouer. 43e minute, très très bon coup franc pour Balogun. C'est parti, quelques pas d'élancé, enroulé, c'est cadré, ce sera repoussé des deux points par Matzels. Deuxième chance pour Balogun qui est sur le côté gauche face à Dimitri Lénard. Le petit crochet, c'est bien joué. Il va falloir travailler. Est-ce qu'il va réussir à passer le tacle de Lénard? Mais il garde la maîtrise. Balogun, encore un petit crochet, la semelle, c'est bien joué. Le centre coup du foulard, il aura tout fait. Et la reprise de volée derrière d'Andrew Gravillon qui va se gêner avec Ito. Si ça c'était allé au bout, messieurs, on avait une des actions de l'année. Ce festival de Balogun, mais les Strasbourgeois ont pu se dégager, même pourquoi pas essayer d'amorcer un contre, même si là les Rémois sont très très vite revenus et le public de la Méno qui pousse un petit peu pour les deux dernières minutes. C'est vrai que le public a aussi été un petit peu éteint par ces Rémois, hein, parce qu'il voit bien que Strasbourg a du mal sur le terrain, qu'on est un petit peu dans le dur, et c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu ce cop pour l'instant, avec un ballon encore une fois récupéré par les Rémois avec Doumbia qui va trouver Balogun encore une fois sur le côté gauche. Première attention pour Ito qui va arriver en face à face. Ito, il va pas pouvoir la glisser, l'arrêt de Matzels. Le ballon était un petit peu loin de sa jambe d'appui là pour pouvoir vraiment enrouler ce ballon. Il n'a pas réussi à mettre la puissance qu'il voulait, la Junia Ito. Mais bien joué également de la part de Matzels qui ferme l'angle et qui va vite au sol encore une fois, puisque ce ballon aurait quand même pu filer malgré tout, même à faible vitesse, il aurait pu filer dans le but. C'était cadré, mais encore une fois, ce duo là, Balogun-Ito. quand ils vont vraiment bien se connaître, ça va être quand même très très intéressant, parce que ça fait 3-4 fois là que qu'ils se trouvent, qu'ils jouent en première intention, qu'ils se cherchent, et c'est plutôt pas mal. Allez, quelques secondes encore, 15 secondes dans le temps réglementaire. Cette première mi-temps toujours 0-0, même s'il y a eu pas mal de situations et d'occasions de but des deux côtés, notamment je dirais avantage quand même au Rémois, hein, sur cette première mi-temps, avec Ito qui va pouvoir là au milieu organiser un petit peu justement. Allez, on rentre dans le temps additionnel, 3 minutes supplémentaires dans cette partie, avec Maxime Buzy là-bas sur le côté droit, dont l'option d'achat a été levée automatiquement après le maintien du stade de Reims, hein, il vient de Parme, le jeune belge là-bas qui fait le boulot pour l'instant tranquillement, un peu moins clinquant que Loco sur le côté gauche, mais il est en place. Et ce côté gauche, on y vient avec Younes Abdelhamid justement pour Benzouzi Loco face à Thomas Delaine. Appel contre appel peut-être par-dessus. Non, Abdelhamid ne l'a pas vu. Malheureusement, l'appel était plutôt pas mal, mais on préfère repasser par derrière. C'est vrai que depuis 10-15 minutes, il y a eu un petit temps de creux. On a senti un petit temps mort après un début de match vraiment avec beaucoup d'intensité. Il y a eu 5-6 minutes où les deux équipes, on l'a senti, avaient besoin de souffler un petit peu. Et là, on essaye de terminer fort des deux côtés pour pourquoi pas, que ce soit Strasbourgeois ou Rémois, arriver à la mi-temps avec un petit but d'avance. On sait qu'un but pris là, maintenant, là, à la 46e, ça fait très mal toujours au crâne de l'équipe adverse. Et voilà, encore une fois, le pressing excellent là de Mounetzi devant Thomasson. Il récupère le ballon très rapidement. Et peut-être une des dernières situations avec Buzy. On est aux 40-30 mètres là maintenant, début Strasbourgeois. Doumbia qui est passé. Oh, quel geste face à Djikou. Il continue et le retour de Maxime Lemarchand. Superbe. Oh là là, le crochet de Kamori Doumbia là sur Djikou était absolument magnifique. Il est de dos. Et en se retournant, il réussit à placer un petit crochet, leur petit pompage. Je vois pas bien de là où je suis. On va peut-être revoir l'image, mais c'était magnifique. Et heureusement pour, oh, c'est superbe. Le geste de Doumbia est à toute vitesse. Il est magnifique de maîtrise. Et heureusement pour les Strasbourgeois derrière, il y a Lemarchand qui fait un retour assez exceptionnel pour venir taquer ce ballon.
Ouais. Les deux gestes sont beaux. Hein.
On parle toujours des gestes techniques des attaquants, mais parfois il faut aussi tirer d'autres coups de chapeau aux défenseurs. Parce que là, dans cette situation-là, à toute vitesse, avec Doumbia qui arrive lancé, tu risques aussi tout simplement de provoquer un pénalty. Son geste est absolument parfait et maîtrisé à Maxime Lemarchand. Et en plus de ça, il récupère le 6 mètres, puisque le ballon a été touché en dernier ressort par Doumbia. Voilà, le ballon qui est dégagé et qui va être vite perdu, encore une fois, par les Strasbourgeois, au grand dam de Julien Stéphan, qui a les bras un petit peu ballon à chaque fois. On le voit là s'agacer un petit peu de toute ces pertes de balles de ces joueurs. Il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors les Strasbourgeois l'avaient dit à la mi-temps à Nice, il avait poussé une bonne gueulante, hein, pour reprendre le terme d'Adrien Thomasson. J'imagine que le vestiaire de la Méno va aussi vibrer un tout petit peu tout à l'heure, parce qu'il n'est pas satisfait du tout de ce qu'il voit Julien Stéphan, même si là il va y avoir peut-être un corner à venir pour les Strasbourgeois après ce bel effort là. Dimitri Lénard qui s'est battu jusqu'au bout pour obtenir ce corner. Il harangue un petit peu, voilà, comme il aime bien le faire. Les supporters à côté de lui là, il lève le bras en disant allez, il faut nous pousser un petit peu. Il reste 30 secondes dans ce temps additionnel, peut-être le dernier corner, une chance pour les Strasbourgeois là, avec le pied gauche de Dimitri Lénard justement. Tous les grands sont là bien sûr, Perrin, Diallo, Djikou, avec Thomasson qui est très bon de la tête aussi, premier poteau peut-être pour Thomasson justement, le but, voilà pour Alex Djikou, le ballon dévié, premier poteau par Adrien Thomasson. Et derrière, il y a Djikou qui a suivi, les Rémois qui regardent un petit peu ce qui se passe parce que c'est pas évident d'intervenir. Il se jette et dans le but vite, il met le but. Bah voilà, on l'avait dit, les deux équipes qui essayent d'aller chercher pourquoi pas ce but juste avant la mi-temps. Alors c'est dur pour les Rémois, hein. C'est très très dur, pas forcément mérité pour les Strasbourgeois. Et voilà un coup de pied arrêté qui vient déverrouiller un petit peu la situation. Voilà, vous avez le nom du buteur, encore une fois. Voilà. Voilà, merci merci Jean-Luc Filzer, le speaker de la Méno et sa voix. Et effectivement, voilà, les Rémois qui encore une fois prennent un but sur coup de pied arrêté, on l'a dit, hein, 3 buts encaissés de cette façon-là contre Clermont. Et là encore une fois, voilà, intelligemment tiré, premier poteau pour la petite déviation d'Adrien Thomasson qui est malgré sa petite taille un excellent joueur de tête, qui a déjà marqué plusieurs fois et qui là est venu dévier intelligemment. Et deuxième poteau, Djikou se jette. Et l'arbitre Rudy Biquet qui devrait sans doute siffler la mi-temps, hein, pratiquement sur la remise en jeu. Et cet avantage maintenant donc pour les Strasbourgeois qui va pouvoir donner un petit peu plus de sérénité à Julien Stéphan, même s'il ne va pas oublier les quelques errements de son équipe. Voilà, Woodfess qui marche parce qu'il sait que la mi-temps est sifflée à l'instant sur ce score de 1-0 en faveur du Racing Club de Strasbourg. Le but de Djikou à la 45e plus 2. Et c'est dur pour les Rémois, ouais, qui ont eu un but refusé pour un enjeu de quelques centimètres. Ils auraient peut-être pu avoir un pénalty tout à l'heure, des situations, un coup franc. Enfin bon, voilà, il y a eu beaucoup de bonnes choses hein, côté Stade de Reims, mais il va falloir eh bien, aller maintenant chercher ce but hein, pour les Champenois et les Strasbourgeois. Il va falloir aussi nous proposer quelque chose un tout petit peu mieux, même si on ne s'est pas ennuyé. Voilà, 1-0 pour Strasbourg.
Merci beaucoup Sébastien, on te retrouve pour la deuxième période de ce Strasbourg-Reims, donc avec l'ouverture du score Manu de Strasbourg au pire des moments pour les Rémois.
Ah oui,
et franchement, sur l'ensemble de cette première mi-temps, ils s'en sortent bien les Strasbourgeois.
Ah oui, ils s'en sortent super bien, surtout que bon, Sébastien a dit que Thomasson il est bon de la tête, mais bon, il n'est pas très grand. Là, il était tout seul au premier poteau. Il a pu faire cette déviation vraiment tranquillement et on a vu tous les Rémois, ils étaient statiques. Et les Strasbourgeois n'avaient que deux qui étaient en mouvement, il y avait Thomasson et Gicou qui étaient au deuxième poteau et bien, il a repris ce ballon tranquillement. Mais c'est vrai que dans l'ensemble de cette première mi-temps, c'est immérité pour Reims. Mais quand tu as des occasions, il faut les mettre au fond aussi pour pouvoir gagner des matchs.
Mais ça, tu l'as vu mille fois ce scénario. Effectivement, l'équipe qui domine, l'équipe qui a énormes occasions. C'est l'équipe adverse qui punit ensuite.
C'est ça.
Alors, si tu regardes les stats, c'est un tir cadré pour Strasbourg, un but. Voilà, 100% efficacité pour les Strasbourgeois. Ça explique que Strasbourg mène à la mi-temps 1-0 face à Reims. On va suivre bien sûr la deuxième période ensemble avec Sébastien Ruffet au stade de la Méno en direct et en intégralité. Bien sûr, vous ne raterez rien de ce Strasbourg-Reims. Et on revient dans un tout petit instant pour parler de moto. Le Grand Prix d'Autriche va débuter à 14h et on ne va rien rater de ce Grand Prix moto. Présentation dans un instant avec Paul Lafitte. Restez bien avec nous dans l'intégral sport sur RMC. À tout de suite.